Merci d'écouter RFI 19h, temps universel 20h à Paris, 21h à Chisinau.
Baptiste Coulon.
Bonsoir à tous. À la une de cette édition, élection présidentielle en Moldavie aujourd'hui. La présidente sortante Maia Sandu, pro-européenne face à un candidat soutenu par la Russie. Les bureaux de vote ferment à l'instant. On est à Chisinau, la capitale, dans quelques secondes. Élection présidentielle américaine J-2. Plus de 70 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation. Bien plus qu'il y a 4 ans. Comment l'expliquer? Réponse dans cette édition. Dans ce journal aussi, les inondations dévastatrices en Espagne, dans la région de Valence. On verra que les habitants se démènent pour vider l'eau stagnante dans leur parking. Et puis l'actualité en France et une manifestation de la communauté antillaise cet après-midi à Paris pour dénoncer la vie chère dans les Outre-mer. Et on commence donc ce journal en Moldavie où les bureaux de vote viennent de fermer. Second tour de l'élection présidentielle, la présidente sortante pro-européenne Maia Sandu face à Alexander Stoyanoglu, un ancien procureur qui prône le rapprochement avec la Russie. Julien Chavan, on vous retrouve à Chisinau, la capitale. Vous êtes au quartier général de Maia Sandu où l'on attend les résultats.
Oui, la présidente sortante doit s'exprimer dans les prochaines minutes. L'issue du vote reste encore inconnue. La soirée s'annonce longue. Maia Sandu est arrivée en tête au premier tour, mais son rival Alexander Stoyanoglu a un bon réservoir de voix. Ce soir, les chiffres de la participation ne nous éclairent pas plus. Il y a eu un vote record de la diaspora, plus de 300 000 voix, sans que l'on sache encore si cela avantage un camp ou l'autre.
Et le spectre de nouvelles perturbations du scrutin a plané toute la journée, Julien.
Oui, la police enquête sur l'organisation de vols et de bus pour transporter des électeurs moldaves entre la Russie, la Biélorussie, l'Azerbaïdjan ou encore la Turquie. Une vidéo circule en masse sur les réseaux sociaux. On y voit un avion russe rempli de passagers brandissant des passeports moldaves. On a aussi vu une file interminable de voitures sur le pont qui rallie la Transnistrie avec la Moldavie. La circulation y a été interrompue après une alerte à la bombe. Des alertes à la bombe, il y en a aussi eu dans plusieurs bureaux de vote dans la ville de Varnita, mais aussi à l'étranger, en Allemagne et au Royaume-Uni. L'équipe de Maia Sandu dénonce déjà, comme au premier tour, des opérations massives d'interférence menées par la Russie. Les premiers résultats sont attendus dans une grosse heure.
Merci à vous, Julien Chavan. Vous suivez ces élections en Moldavie pour RFI. Donald Trump ou Kamala Harris, la présidentielle américaine, elle, est dans 2 jours désormais. Les deux candidats dans les États clés, à nouveau aujourd'hui, pour tenter de séduire les indécis. Le Michigan pour Kamala Harris, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et la Géorgie pour Donald Trump. Il y a les indécis et ceux qui ont déjà voté. 74 millions d'électeurs ont déjà fait leur choix grâce au vote par anticipation. Un mouvement qui avait déjà été constaté il y a 4 ans à la sortie de la crise du Covid, mais qui prend encore plus d'ampleur cette année. Mathieu Gallard, directeur d'études chez Ipsos, l'institut de sondage, explique les raisons de ce changement de comportement électoral.
C'est un changement de comportement, mais c'est aussi un changement de pratique, parce que les États, les comtés, justement, se sont organisés en 2020 pour faire face au Covid, et donc ont multiplié les possibilités en termes légaux et en termes logistiques pour les électeurs de voter soit dans des bureaux de vote ouverts en avance, soit par correspondance dans les jours et les semaines qui précédaient le scrutin. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est effectivement largement utilisé. Il y a sans doute effectivement la dimension, toute la tension autour du scrutin qui fait que peut-être une partie des électeurs n'ont pas très envie de se rendre dans les bureaux de vote le jour du scrutin.
Et on se rappelle qu'en 2020, Donald Trump avait découragé les électeurs républicains d'utiliser le vote par anticipation. Là, on va dire qu'il a retenu la leçon.
C'est vrai que beaucoup de stratèges républicains ont estimé que ça avait été une erreur. Donc là, effectivement, Donald Trump a changé son fusil d'épaule. Il appelle ses électeurs à voter par anticipation, alors qu'en 2020, il leur disait surtout n'y allez pas.
Un propos recueilli par Sylvie Noël. Kamala Harris annonce de son côté ce soir avoir voté par correspondance à 2 jours donc de ce scrutin. La guerre au Proche-Orient et Benjamin Netanyahou menacent le Hezbollah de riposte ferme ce soir en cas d'attaque contre Israël. Le Premier ministre israélien en visite aujourd'hui à la frontière israélo-libanaise. Israël qui a mené de nouveaux raids intenses sur plusieurs fiefs du Hezbollah ces dernières heures au sud Liban, visant notamment Tyr, Tebnin ou encore Saïda. Au moins 3 morts côté libanais. Ces menaces et ces bombardements, alors que l'Iran, de son côté, indique qu'un cessez-le-feu entre ses alliés et Israël pourrait influer sur la riposte que Téhéran promet à l'État hébreu. Riposte aux frappes israéliennes qui ont visé plusieurs infrastructures militaires iraniennes le 26 octobre dernier. Elles étaient jusqu'ici assez contenues ou visibles à travers des critiques concernant la gestion de la crise. Mais cet après-midi, les sinistrés des inondations de la région de Valence en Espagne n'ont pas pu retenir leur colère. Insultes et jets de boue adressés au Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, mais aussi au roi d'Espagne Felipe VI et à la reine Laetitia. Ils étaient en visite cet après-midi aux côtés des rescapés de la catastrophe dans la ville de Paiporta au sud de Valence. Visite écourtée pour les dirigeants qui ont tout de même tenté d'aller à la rencontre des sinistrés. Et à Paiporta, justement, les rescapés s'attellent au nettoyage de leurs habitations et pour certains de leurs garages et des parkings où l'eau s'est infiltrée et stagne désormais. Reportage sur place de notre envoyé spécial Pauline Glaise.
L'eau que cette habitante pousse avec sa raclette provient du garage souterrain de son immeuble.
On le vide pour le nettoyer et voir dans les caves. Tout sera jeté, mais bon. Jusqu'à présent, on n'avait pas de machine pour nous aider. On a commencé ce matin en vélo avec une pompe.
L'entrée du garage souterrain de Vicente Cascales a encore des aires de mare stagnantes, barrées par deux voitures à la verticale et partiellement immergées. Un garage où il a failli perdre la vie.
J'ai réussi à sortir de la voiture. Il y a eu une sorte de tsunami qui m'a entraîné. Ma femme a dû s'agripper à la portière. On a été pris dans un tourbillon. J'ai sauté sur le capot pour essayer de la tenir. Grâce à un voisin, on a réussi à avoir la vie sauve.
Mais tous n'ont peut-être pas eu cette chance.
On suspecte que des gens soient restés dans notre garage. C'est pour ça qu'il y a une urgence à pomper l'eau.
Un camion de pompiers s'est garé à proximité de l'entrée nettoyée par Vicente Cascales et ses voisins.
On l'a laissé comme ça, pour que les pompes puissent venir vite et vidanger l'eau.
En prenant des précautions, cette eau stagnante, potentiellement en contact avec des cadavres, présente un risque pour la santé. Pauline Glaise, Paiporta, RFI.
Et le dernier bilan de ces inondations est de 217 morts, plusieurs dizaines de disparus. Ce soir, la communauté de Valence est à nouveau placée en alerte rouge en prévision de fortes pluies. Les habitants appelés à rentrer chez eux par les autorités. L'actualité en France, plusieurs milliers de personnes dans les rues de Paris cet après-midi contre la vie chère dans les Outre-mer. C'est la diaspora ultramarine qui a fait entendre sa voix alors que le mouvement qui secoue la Martinique depuis début septembre ne s'éteint pas. Les manifestants réclamaient l'alignement des prix sur ceux de la métropole à l'appel des leaders du mouvement martiniquais venus chercher du soutien dans l'Hexagone. Reportage de Marie Casadebé.
Aïe, Pouillot, rien pour eux. La colonisation nous a déjà tout pris. Là, c'est beau, c'est fini.
La foule est vêtue de rouge, la couleur du RPRAC, le collectif à l'initiative du mouvement contre la vie chère en Martinique. La couleur de la colère qui touche aussi les Antillais de métropole, solidaires de leur famille et également concernés par les tarifs appliqués de l'autre côté de l'Atlantique. Miguel est martiniquaise. Pour cette quinquagénaire, la diaspora doit se faire entendre.
Oui, parce que nous sommes assez nombreux. On pourrait remplir un département même comme celui de la Martinique. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que nous sommes vraiment français ? Quand on veut envoyer un colis par la poste, on paye comme si on l'envoyait à l'étranger. On veut nous taxer pour les billets d'avion, c'est inadmissible.
En tête de cortège, les manifestants se bousculent pour apercevoir les trois leaders du RPRAC, arrivés la veille de Martinique.
C'est le représentant du peuple, mieux que nos élus, qui sont diplômés.
Parmi eux, Aude Goussard, venue expressément s'adresser aux ultramarins de métropole.
On est monté pour leur dire que nous sommes conscients qu'ils le vivent ici quand ils viennent en vacances et nous devons faire baisser les prix impérativement.
Un combat porté jusque sous les fenêtres du ministère des Outre-mer.
Et puis notez qu'en Nouvelle-Calédonie, le couvre-feu en vigueur depuis le 14 mai va être allégé à partir de demain. Il sera désormais appliqué de minuit à 5h du matin. Et les restrictions sur la vente d'alcool vont aussi être assouplies. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le haut-commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie. Les sports, c'était le marathon de New York ce dimanche. Marathon remporté par la Kenyane Sheila Chepkirui. C'est une surprise et un premier succès majeur pour cette athlète de 33 ans. 2h24 pour boucler les 41 km. Côté messieurs, c'est le néerlandais Abdi Nagy qui remporte ce marathon. Et puis en tennis, la dernière marche était peut-être trop haute pour le français Hugo Humbert, battu en finale au Masters 1000 de Paris-Bercy par l'allemand Alexander Zverev, troisième joueur mondial. Défaite sévère en 2-7, 6-2, 6-2. Alexander Zverev qui cumule désormais 7 titres en Masters 1000 de tennis. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci à vous d'écouter RFI 20h10 ici à Paris, 19h10 en temps universel. We'll be right back.